Dieu, nous te remercions encore pour cette grâce que tu nous fais d'être là, d'être en toute liberté réunis pour étudier ta parole, pour prier, porter les fardeaux les uns des autres. Et je te prie que tu nous conduises par ton esprit dans cet instant qui vient et que tu nous éclaires, que tu illumines nos cœurs pour saisir ta parole et que tu les incline aussi afin d'obéir à ta parole pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Nous te prions ces choses. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible. On continue avec les textes qui sont autour de la nativité. Alors dimanche, on était dans un texte en Luc chapitre 2. Je vous demande de reprendre encore Luc chapitre 2. Et nous allons considérer... Donc, dans Luc chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 21. Voilà. 21, on a vu les versets 25 à, je crois, à 35 dimanche matin. Là, nous voulons considérer les versets 21 à 24, qui est un petit épisode de la vie de Jésus, mais entre chez eux, je pense. À Nazareth et puis après au temple à Jérusalem. Donc nous allons lire ces versets. Luc chapitre 2, verset 21, il dit « Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles et deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Et puis on peut regarder à la fin, au verset 39, donc après l'entretien avec Siméon, après la visite de Anne, il est dit « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. » Verset 40 « Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Voilà. Donc nous allons considérer un peu ces versets 21 à 24 hein, qui constituent un épisode de la vie de Jésus, mais Jésus tout petit, hein, et où on voit un certain nombre de choses. Alors si vous regardez bien ces versets, les quatre versets qu'on vient de qu'on va considérer, 21, 22, 23 et 24, est-ce que vous pouvez noter quelque chose qui revient pratiquement dans chaque verset? Seigneur, oui, on pourrait dire cela. Il y a, ouais, d'autres choses encore. Oui, voilà, ouais, il y a ça, hein, la loi du Seigneur. Il y a quand même quelque chose qui est, c'est vrai, il y a Seigneur, et puis il y a aussi la ça sifflote un peu, non, le micro, non? Ouais, c'est un peu... peut-être enlever le côté aigu un peu, parce que ça fait beaucoup de... Il y a la loi du Seigneur, voilà, et il y a aussi le Seigneur. Mais surtout, c'est surtout la loi que je voulais vous faire remarquer. Regardez dans le verset 21, il dit « Le huitième jour où l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. » Alors, qu'est-ce qui fait référence à la loi ici, dans ce verset-là? Il y a, voilà, le huitième jour auquel l'enfant devait être. Hein, il devait être, ça veut dire qu'il devait être selon la loi. Et puis au verset 22, si vous regardez, il est dit « selon la loi de Moïse ». Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse. Et puis au verset 23, il est dit « suivant ce qui est écrit, donc Marie portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, fin du verset 22, verset 23, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. » Et puis au verset 24, il est question d'offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi de l'Éternel. Et si vous regardez au verset 27, il est dit, il vint au temple, il parle de Siméon, qui vient au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard, quoi, ce qu'ordonnait la loi. Et puis au verset 39 que nous avons lu, il est dit, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi. Et on peut dire que ce que Luc fait ici, on dit souvent que la répétition de quelque chose nous aide à comprendre son importance. Hein. Je crois que Luc souligne vraiment ici que dès le jeune âge, dès la naissance de Jésus, eh bien, il a été soumis à la loi. Et le souci du Saint-Esprit ici, c'est de nous faire prendre conscience probablement de la soumission de Jésus à la loi de Dieu, à la loi de l'Ancien Testament, dès sa venue dans ce monde-là. Et l'apôtre Paul avait dit en Galates 4:4, vous vous rappelez bien ce verset, il dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, donc ça c'est pour parler de son humanité, mais il l'ajoute, et né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Donc, Paul aussi souligne le fait que Jésus est né sous la loi, soumis aux exigences de la loi, qu'il devait se plier, comme tous les autres juifs, à la loi, et sa vie devait être conforme à la loi. Et ses parents, certainement, on le voit ici, on comprend, l'ont éduqué d'une manière stricte, est conforme à la loi de Dieu. Et donc Luc montre bien que il y a cette nouvelle ère qui s'ouvre avec la venue de Jésus, mais elle n'est pas déconnectée de la loi. Elle est même dans l'accomplissement de toute la loi, la loi de Dieu. Et donc Jésus lui-même, il avait dit ceci, il avait dit quoi ? Il avait dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc la venue de Jésus montre cet accomplissement de la loi. En Jésus, nous avons l'accomplissement de la loi. Alors il y a trois événements ici que cite Luc et qui montrent cette conformité à la loi. Alors quels sont-ils ? Quels sont les trois ? Est-ce que vous pouvez les citer ici ? La circoncision de Jésus, oui. La purification de Marie, oui, tout à fait. C'est pas la purification de Jésus, de Marie. Et offrir un sacrifice. Alors, si on lit bien ici, alors on va relire. On va relire dans le verset. En fait, Luc, il y a deux choses. Premièrement, la circoncision, verset 21. Deuxièmement, il parle de la purification. Verset 22 et quel autre verset ? La purification, c'est pas terminé. Si vous lisez, en fait, Luc parle de quelque chose, il parle d'autre chose, il revient après. Donc, il parle de la purification. Ensuite, il passe à la présentation de Jésus au temple. Et ensuite, au verset 24, il revient au sacrifice. Et sacrifice, là, c'est quoi, là ? C'est quoi ces sacrifices dont il parle ici ? Parce que c'est en fait les sacrifices, on va le voir, ouais, du Lévitique, et qui parle les sacrifices pour qui ici ? Pour ? Non, pas pour le premier-né, pour la mère. Voilà, pour l'impureté de la mère. C'est les sacrifices que devait rendre, que devait donner pour après les jours de purification. Donc la structure du texte est un peu particulière. Il parle de Jésus, ensuite il parle de Marie qui va au temple lorsque les jours de purification, Marie-Joseph, lorsque les jours de purification sont passés, et en même temps, ils vont présenter l'enfant Jésus selon ce que la Bible ordonne en disant que tout premier-né sera consacré à l'Éternel. C'est ça qu'il dit, elle va au temple pour faire ceci, verset 24 dit, et pour offrir. Il y a deux choses ici, vous voyez. Elle l'amène au temple au verset 22, elle dit, quand les jours de purification, il dit, quand les jours de purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, et puis au verset 24, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles. Donc il y a deux choses distinctes ici, hein. La présentation de Jésus d'un côté, et puis l'offrande de sacrifice pour la purification de Marie. Alors, on va essayer de voir rapidement ces trois choses. Premièrement, donc, les événements ici, c'est donc la loi, donc la première loi à laquelle Jésus se soumet, on pourrait dire, hein, c'est la loi de la circoncision le huitième jour. Tout enfant, mâle, juif, devait être circoncis 8 jours après sa naissance. Si vous lisez Luc 1, 59, bien pour Jean-Baptiste, hein, on le voit aussi, il est dit, le huitième jour où ils vinrent pour circoncire l'enfant, ils l'appelaient Zacharie, d'accord, du nom de son père. Donc c'était pareil, huitième jour, Jean-Baptiste circoncis, huitième jour, Jésus est circoncis. Et ça se fait selon ce qui est prescrit dans la loi de l'Éternel. Genèse 17, 10 à 14, regardez Genèse 17, 10 à 14. Genèse 17, 10 à 14. Nous avons cette circoncision qui est le signe de l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Hein. Genèse chapitre 17 et verset 10. Il dit, Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu du peuple, il aura violé mon alliance. Hein, c'est un peu cette alliance ici que Dieu fait avec Abraham et qui plus tard, eh bien, est transmis à tout le peuple d'Israël. Et donc, on le voit dans Luc ici, dans cette cérémonie-là, on donnait le nom aux enfants. Alors, il n'y a pas de texte de l'Ancien Testament qui dise qu'il faille nommer l'enfant dans cette cérémonie, mais probablement c'est quelque chose qui s'est fait par la suite. On le voit pour Jean-Baptiste, hein. On le fait circoncire, on lui donne le nom, et pour Jésus, il est dit qu'au huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, eh bien, on lui donna le nom de Jésus. Alors, en général, les parents, donnent des noms à leurs enfants. C'est les parents qui donnaient des noms, mais dans certains cas, c'est Dieu lui-même qui donnait le nom. Pour Jean-Baptiste, c'est Dieu qui a dit qu'il fallait l'appeler Jean. Hein. Et puis pour Jésus aussi, c'est Dieu qui a dit qu'il fallait l'appeler, par l'intermédiaire de l'ange, vous vous rappelez, qu'il fallait appeler Jésus. Donc, c'est des noms qui voulaient dire quelque chose pour Jean, particulièrement pour Jésus, hein, et tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, lors de la cérémonie de la circoncision, il a reçu ce nom qui certifie sa mission, sa nature, ce qu'il est venu accomplir. Alors, la circoncision dans la chair symbolise quand même, quand on lit l'Écriture, la purification du cœur, même déjà dans l'Ancien Testament. Hein, vous circoncirez vos cœurs. Hein. On ne va pas lire tous les passages qui le disent, mais Deutéronome chapitre 10, verset 16 le dit. Et puis, Romains chapitre 2, verset 29, on peut lire ça. Hein, Romains chapitre 2, verset 29. Romains chapitre 2 au verset 29. Si quelqu'un le trouve avant moi, vous le lisez. Voilà. Ouais, merci. Et on trouve encore d'autres textes, Philippiens 3:3, Colossiens 2:10-11, où il est question vraiment de cette circoncision qui symbolise quelque part la conversion qui est opérée par le Seigneur. Colossiens dit ceci, il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est pas simplement le dépouillement charnel, mais il y a quelque chose de spirituel qui est comme un dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc cette réception de l'Esprit de Dieu, ce baptême de l'Esprit, c'est ce temps de la circoncision aussi du cœur. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est que Jésus était sans péché. Alors pourquoi était-il besoin qu'il fût circoncis? Pourquoi est-ce qu'il fallait le circoncire? Il n'en avait pas besoin, hein. Il n'y avait rien qui, comme pour le peuple d'Israël, nécessitait qu'il soit circoncis, que ce soit un signe du dépouillement de la chair, quelque chose qui ôte le péché. Mais simplement, il fallait qu'il, l'apôtre Paul le dit, hein, qu'il naisse sous la loi et qu'il accomplisse parfaitement en tant que juif tout ce que la loi exigeait. Et il fallait qu'il soit reconnu comme juif, qu'il puisse enseigner comme juif. Il fallait qu'il soit un véritable juif. Et c'est un signe qui marquait l'appartenance au peuple d'Israël, qui identifiait quelque part le juif. Hein. Donc il avait besoin d'accomplir toutes les exigences de la loi. Il avait besoin d'y obéir parfaitement, afin, l'apôtre Paul dit, de pouvoir racheter aussi ce qui était sous la loi. Donc il fallait qu'il passe par cette circoncision pour témoigner qu'il est juif, qu'il est fils de David et qu'il est de la postérité aussi d'Abraham. On a un petit peu dit cela dimanche, hein, il est aussi de la postérité d'Abraham. Donc Marie et Joseph le font, probablement chez eux. Et puis, quelques temps après, la Bible dit qu'ils vont au temple pour faire une autre chose, hein, pour deux autres choses, pour la cérémonie de purification, et puis aussi pour présenter Jésus au temple. Alors, deuxième loi à laquelle, quelque part, c'est Marie qui se plie, mais à travers elle, on pourrait dire le Seigneur aussi, eh bien, Jésus, eh bien, c'est cette loi de la purification qu'on trouve en Lévitique chapitre 12. On va regarder ça quand même parce que c'est un texte qui explique. Parfois on confond quand on lit Luc chapitre 2, hein, purification, il offre des choses pour Jésus, etc. Vous voyez, on était un petit peu confus tout à l'heure, mais en fait, il faut bien lire le texte de Lévitique 12. Si on lit le Lévitique 12, verset 1, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Et elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang et elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Voilà. Donc on va revenir à Luc. Ici, voilà ce que l'Écriture déclare. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Alors, quand c'était un garçon, on dit, ici, c'est 40 jours d'impureté. Quand c'est une fille, c'est 80 jours. Quand il y avait une fille, la femme était impure pendant 80 jours. Alors, bien sûr, c'est des choses qui ne vont pas plaire aux féministes, mais là n'est pas le problème, hein. C'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé que les choses sont ainsi. Luc ne l'explique pas. Alors, il y en a qui essayent de trouver des raisons à cela, Pourquoi deux fois plus de temps quand la femme a une fille par rapport à un garçon? Alors certains avancent parfois l'idée que bien c'est peut-être parce que, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite, peut-être qu'il y a une responsabilité particulière, mais on ne sait pas, c'est que des spéculations, ça doit être ça. Je ne sais pas. Et voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent aussi peut-être que comme pour le garçon il y a une circoncision, d'accord, alors que pour la fille il n'y a pas d'équivalent, eh bien peut-être ça c'est une contrepartie, hein, ça compense. C'est deux hypothèses qui sont données sans pour autant dire que c'est cela. Alors on ne sait pas, la Bible ne le dit pas, on ne va pas spéculer là-dessus. Ce qui est important ici de voir, c'est que Marie et Joseph respectent cela. Je crois que c'est ça que Luc veut montrer ici, surtout. C'est que Marie et Joseph respectent cela. Est-ce que Marie l'a compris? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pourquoi ça doit durer autant de jours? Je ne sais pas. Dieu le dit et elle le fait. Je crois que c'est ce que Luc souligne ici. C'est surtout la suite, hein, ce qui doit se passer à la fin de cette époque, de cette période de 40 jours, eh bien, c'est que si vous retournez dans Lévitique chapitre 12, et vous allez comprendre maintenant le verset 24 avec les sacrifices, chapitre 12, Lévitique 12, verset 6 dit: lorsque les jours de la purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Donc qu'est-ce que Luc montre ici quand il dit que Marie et Joseph sont venus, il dit avec deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit par la loi. Eh bien, il montre que c'était un couple pauvre, hein, humble et puis pauvre, mais qui néanmoins a accompli la loi de Dieu, qui ont cherché scrupuleusement à accomplir la loi de Dieu. Il ne s'étend pas sur le pourquoi, etc. Il ne donne pas des explications. Il veut simplement souligner que Marie et Joseph étaient obéissants, vraiment à ce que Dieu avait prescrit. Et ils se sont appliqués à tout faire pour que Jésus lui-même soit soumis à la loi dès sa plus jeune enfance, dès son état de nourrisson. Okay. Après tout, hein, on pourrait dire l'enfant qu'elle met au monde, il n'est pas un pécheur, il n'avait pas besoin de circoncision pour lui. Et puis elle-même, c'était un enfant qui était conçu par le Saint-Esprit. Donc on pourrait supposer que sa venue, c'est pas pareil que la venue de notre enfant, et la question de la purification après les 40 jours, etc., peut-être pourrait se poser. Mais Luc montre ici que jusque dans les moindres détails, même si il y a des choses qui n'étaient pas, nécessaires pour Jésus dans le sens où il n'était pas un pécheur, eh bien, il s'est placé sous ces choses-là pour pouvoir se soumettre complètement à la loi de Dieu. Parce que ce qui était demandé, ce qui était dans le plan du salut, ce qui était recherché, c'est qu'il puisse vivre sous la loi de Dieu, en obéissance totale et parfaite à toute la loi de Dieu. Et c'est pour cela que quelqu'un disait qu'il n'est pas resté sur la terre juste un week-end. Il a pu venir un week-end, mourir, l'expiation, et puis repartir. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il a vécu 33 ans. Et il a fallu que pendant ces 33 ans, depuis l'âge du nourrisson jusqu'à sa mort, il vive en parfaite obéissance à la loi. Troisième loi, donc après, à laquelle il se soumet ici, c'est celle qui consistait à présenter les enfants au Seigneur, les premiers-nés, le premier-né au Seigneur. On pourrait dire la loi du rachat. Et là encore, c'est une loi qui est donnée dans l'Ancien Testament. Donc je vous lis juste un extrait d'Exode, chapitre 13, versets 1 et 2. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que des animaux, il m'appartient. » Et donc la raison que Dieu donne pour cela, pourquoi est-ce qu'il fallait que les premiers-nés soient consacrés à l'Éternel? Est-ce que vous vous rappelez la raison, c'est quoi? Oui. Lors de la dixième plaie, voilà. Lors de la dixième plaie d'Égypte, c'était quoi la dixième plaie? Vous vous rappelez? C'était la mort de tous les premiers-nés. Et tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts, même les premiers-nés du bétail aussi. Hein. Et le peuple d'Israël, lui, il a été épargné. D'accord. Et Dieu dit, on le trouve dans Exode chapitre 13, versets 11 à 15, on n'a pas le temps de lire, mais vous pouvez le lire à la maison, hein. Et Dieu explique que parce que le peuple a été épargné, eh bien, en contrepartie, il dit, tous les premiers-nés m'appartiennent. Et ils doivent être consacrés à l'Éternel. Et un peu plus tard, eh bien, Dieu demandera finalement de consacrer une tribu. D'accord? C'est quelle tribu? La tribu de Lévi. D'accord? Et que les premiers-nés des autres tribus, d'accord? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est pas que les premiers-nés de la tribu de Lévi qui étaient consacrés. C'est toute la tribu de Lévi, consacrée pour le sacerdoce à Dieu. Et donc, les autres premiers-nés, ils devaient être rachetés. Ils devaient être rachetés. On avait compté combien il y avait et ils devaient donc à prix d'argent être rachetés pour revenir dans les familles. Alors on peut lire ça dans Nombre chapitre 3 quand même. Regardez Nombre chapitre 3, versets 11 à Nombre chapitre 3. Donc Genèse, Lévitique, Nombre chapitre 3 et verset 11. Il dit l'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Ici. Et puis en Nombre chapitre 18, regardez en Nombre chapitre 18, verset 15. Nombre 18 et au verset 15. 18-15. Nous lisons, tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 sicles d'argent, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Bon, je ne sais pas exactement quelle est la valeur que ça représentait, mais l'idée ici, c'est que les Lévites sont consacrés, et parce que les autres premiers-nés ne sont plus pris, ils sont aussi consacrés, mais ils doivent être rachetés. Il faut que la famille paye pour le ramener. Mais ça n'enlève pas le fait qu'ils sont consacrés, hein, ça enlève, d'accord, qu'ils ne sont pas, à plein temps là dans le service, mais ils sont considérés néanmoins comme consacrés à l'Éternel, mais rachetés pour être dans la famille. Alors concernant Jésus, la Bible dit qu'il était le premier-né de Marie. Luc chapitre 2, hein, Marie coucha son fils premier-né et le mit dans une crèche. Il était de quelle tribu, Jésus? La tribu de Judas, pas de la tribu de Lévi. Donc il fallait que lui aussi, il soit racheté. Et donc, quand la Bible dit ici que Marie et Joseph le menèrent dans le temple à Jérusalem afin de le présenter au Seigneur, c'est pour accomplir la loi qui dit « Tout mâle premier-né sera consacré à l'Éternel ». Donc c'était pour le racheter. On suppose, le texte ne le dit pas, mais qu'ils ont dû payer hein, la somme qui était demandée pour qu'ils puissent être rachetés. Alors Jésus pourrait se demander, n'était-il pas déjà consacré? N'est-il pas venu comme le parfait sacrifice? Et donc en entrant dans le monde, lui-même il a dit « Voici, je viens en Dieu pour faire ta volonté ». Était-il donc besoin qu'il soit présenté au Seigneur, qu'il soit racheté de la sorte? Eh bien oui, parce qu'il fallait qu'il accomplisse tout ce que la loi exige et qu'à son égard, eh bien, il n'échappe à aucun commandement qui était demandé à un juif qui vivait sous la loi. Et donc, ce que l'on peut conclure un peu de tout cela, c'est que Luc veut insister vraiment dans ses récits sur la soumission et l'obéissance de Jésus à la loi, quoi qu'il en coûte. Et tous les aspects de la vie de Christ, et là, c'est vraiment dans la toute petite enfance, on pourrait penser, voilà, il était soumis, quand il était grand, à quelques éléments de la loi. Non, dès même son état de nourrisson, alors qu'il ne connaissait rien, qu'il ne pouvait penser à rien, qu'il ne pouvait rien faire, ses parents ont été obéissants à la loi de Dieu et ont permis qu'il puisse être soumis, hein. Il n'a pas pu obéir de son propre fait, mais il a pu être soumis aux exigences de la loi de Dieu, afin qu'il puisse accomplir parfaitement cette loi. Et que et je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit ainsi, hein, il dit que la loi de Dieu puisse être accomplie plus tard aussi en nous, parce que c'est cette vie sainte d'obéissance complète à toute la loi de Dieu qu'il offre. Hein. On pense toujours le salut en termes de Jésus a pris notre péché, d'accord, souvent, et qu'il a pris sur lui nos péchés. Mais n'oublions pas que dans la justification, il y a un grand échange, hein, d'accord. Notre péché lui est imputé. Et s'il n'avait pas vécu, quelqu'un disait ceci, hein, on serait juste comme quelqu'un, on serait juste redevenu comme Adam, par exemple. On est juste redevenu, voilà, au début sans péché, mais après, il n'y a pas de vie qui puisse nous être imputée, d'accord. Et la vie de Christ, c'est celle qui nous est imputée, sa vie juste nous est imputée. Il a fallu qu'il vive une vie où il s'est soumis à toute la loi de Dieu. Et l'apôtre Paul dit aux Romains que l'Écriture dit « Celui qui, celui qui observe tous les commandements vivra de cette manière. Hein, celui qui est capable d'observer tous les commandements de la loi de Dieu, eh bien, sans faute, il vit. Hein. Seulement, c'est impossible pour l'homme de le faire. Seul Jésus a pu le faire. Et c'est parce qu'il a pu le faire que cette vie juste peut nous être imputé. Et cette vie juste, elle commence depuis ici le berceau, hein, si j'ose dire. L'obéissance donc à la loi devait se voir à tous les stades de sa vie, de telle sorte que personne ne pouvait dire « Là, vous n'avez pas observé la loi. » Ah, quand vous étiez petit, vos parents, vous n'avez pas été circoncis, vous n'avez pas observé la loi ici, ou ceci ou cela. Et donc, à tous les niveaux de sa vie, son obéissance à la loi devait se voir de manière évidente. Alors, juste quelques points d'application ici pour nous, hein, là-dessus. Qu'est-ce que ça peut nous, cet exemple de Marie, hein, ici de Joseph, peut nous enseigner, hein, nous en tant qu'enfants de Dieu, dans l'attitude qu'ils ont eue avec le Seigneur Jésus? Une chose importante que je vois ici, c'est qu'aucune expérience, ordinaire ou extraordinaire, naturelle ou surnaturelle, ne nous autorise à vivre en dehors de la loi de Dieu. Parfois, quand on fait une expérience, elle a tendance à venir se placer au-dessus de la loi de Dieu. Et on se dit, on peut être dispensé parfois d'obéir à certaines choses. Quand on parle avec des gens qui, il n'y a pas très longtemps, on parle avec de la famille, quelqu'un qui dit, oui, moi j'ai eu des visions. Je vois des choses. Et on me dit que c'est Dieu qui, je suis sous la protection divine. Et quand on pose
des questions à ces personnes. Mais est-ce que vous lisez la Bible, etc. On a l'impression presque, mais qu'est-ce que la Bible à côté de ce que je vis là, ici, hein? C'est tellement plus important. C'est vraiment du concret, c'est du tangible. C'est quelque chose que j'ai vécu. Hein? Et quand les gens, même dans nos milieux évangéliques, parfois, hein, les gens qui disent, voilà, j'ai vécu quelque chose, et ce quelque chose qu'ils ont vécu est quasiment au-dessus de la parole de Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'ils n'ont pas vécu une expérience comme celle de Marie, hein, qui a vu l'ange Gabriel. Vous savez qui c'est l'ange Gabriel ? Gabriel, il est cité 4 fois dans l'Écriture. Une fois avec Zacharie, une fois avec Marie, et les 2 autres fois, vous savez où c'est ? Dans Daniel. D'accord. Et c'est lui qui vient, qui explique à Daniel la prophétie, qui lui explique la question des 70 semaines, etc. Et quand il parle à Zacharie, il dit, je suis Gabriel. Il dit, je me tiens devant Dieu, devant l'Éternel. C'est un ange de haut rang. Alors, je veux bien, on a vu des visions, mais qui c'est qui peut dire, j'ai vu l'ange Gabriel ? Marie, Jean-Baptiste, une fois, n'est-ce pas, dans l'histoire de toute l'humanité. Et Marie et Joseph auraient pu se dire, waouh, c'est quand même incroyable, t'imagines ? Et imaginez, et pensez à ça, pensez à ce que l'ange lui a dit aussi. Hein ? Il lui a dit, la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut, ici. Et on pourrait dire, quelle expérience ! Marie aurait pu dire à Joseph, « Joseph, penses-tu qu'après une telle expérience qu'on a vécue, il faille prendre le risque de blesser cet enfant en le circoncisant ?» Quand même, c'est le Fils de Dieu, tu crois ? C'est ça que l'ange a dit ça, c'est pas n'importe quel enfant. Bon, ça d'accord, pour tous les autres juifs, d'accord, mais lui, tu penses qu'on est obligé de faire ça, hein ? Il aurait pu dire... Après 40 jours, elle aurait même pu dire, mais je ne suis pas impur, c'est un enfant parfait. Il n'a pas commis de péché. Je l'ai eu sans relation avec quelqu'un d'autre. Ou elle aurait pu dire aussi, penses-tu qu'on doit prendre le risque d'aller à Jérusalem pour le présenter au temple ? Ils étaient à Nazareth ? Peut-être. Je ne sais pas s'ils venaient de Bethléem, ils ont fait Bethléem, Jérusalem et puis Nazareth. Peut-être, ils ont fait comme ça. Mais n'empêche que Nazareth, c'est à quelques journées de marche. Hein. C'est loin, je vais regarder sur le GPS. Aujourd'hui, avec Google Maps. Ah oui, je vous assure, j'ai regardé Google Maps. En voiture, c'est 2h11. Aujourd'hui, d'accord ? En vélo, c'est je ne sais plus combien. Et à pied, c'est écrit 30 jours. 30 jours, c'est écrit. Je crois que c'est écrit comme ça, je crois. Hein. Un peu. Hein. Donc c'est quand même... ou 30 heures, peut-être que j'exagère. Je ne sais plus. Vous regarderez. Hein, vous regarderez. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas juste quelques heures. Quoi, hein. C'est pas juste quelques heures. Et c'était à l'époque. Hein. C'était maintenant. Maintenant, il y a des routes. C'était à l'époque. Donc, ils ont fait de la distance quand même. Ils ont fait de la distance. Ça demandait beaucoup d'efforts. Beaucoup de moyens ont été mis en œuvre. Malgré l'expérience extraordinaire qu'ils ont vécue. Et donc, ils étaient mus par le souci d'obéir à la parole de Dieu. Hein, constamment, toujours, d'obéir à la parole de Dieu, malgré les expériences qu'ils ont pu avoir. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est d'obéir à Dieu. Et la Bible montre qu'ils obéissent, bien qu'ils ont eu, ils ont connu des expériences, on pourrait dire, extraordinaires. Alors, chers frères et sœurs, ne laissons absolument rien... nous empêcher d'obéir au commandement de Dieu. Je crois que c'est une leçon que ce texte nous donne. Ni la distance, ni le caractère exceptionnel d'une expérience que nous pouvons avoir, ni aucune autre pensée ne doit nous empêcher d'obéir scrupuleusement au commandement de la parole de Dieu. Ce qui constitue notre guide, ça n'est jamais une expérience, aussi exceptionnelle soit-elle. C'est toujours la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Deuxième remarque, est que la meilleure façon d'instruire nos enfants dans l'obéissance du Seigneur et d'obéir nous-mêmes au Seigneur avec eux, dans leur jeune âge, dans leur tout jeune âge, ici. Alors que Jésus ne
pouvait pas prononcer un seul mot et qu'il ne se déplaçait pas, qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait autour de lui, ses parents l'ont conduit au temple et ont mis un point d'honneur à obéir avec lui à la loi de Dieu. Quelque part, ils l'ont fait obéir à la loi de Dieu. Il a pu être obéissant dans toute sa vie parce que ses parents ont été au tout début de sa vie aussi obéissants au Seigneur en l'amenant, en le faisant circoncire tel que la loi le commandait. On pourrait dire quelque part que Jésus a obéi quand il était tout petit à travers l'obéissance de ses parents. Mais il a dû aussi apprendre en voyant Marie et Joseph vivre l'obéissance. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance. Il était charpentier, il était de la maison, il a vu, il a grandi. Il ne faut pas croire que c'était un super homme qui, comme quelqu'un disait, qui était charpentier, il ne disait pas de table et puis la table apparaissait. Non, il prenait le ciseau, le bois, il sciait, il devait le fabriquer, il clouait, etc. Il devait faire toutes ces choses-là. Et il a appris à se soumettre, il a appris l'obéissance dans toutes ces choses. Il a appris en regardant vivre ses parents. Et c'est une chose que l'on voit ici, quand Luc nous dépeint Marie et Joseph comme des personnes extrêmement pieuses qui mettent un point d'honneur à obéir à la parole de Dieu et qui entraînent leur enfant dans l'obéissance de la parole de Dieu. J'ai trouvé ce petit texte, et je termine avec ça, de J.C. Ryle, qu'on aime beaucoup ici, je crois, Vincent a traduit quelques textes de lui, et où il dit « Entraînez vos enfants à obéir sans toujours savoir pourquoi. » C'est-à-dire, sans toujours qu'ils sachent pourquoi ils doivent obéir. Maintenant, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, des fois, mes petits-enfants, tu te mets ici, ils disent « Pourquoi ?» Et des fois, on dit même, bon, on ne peut pas obliger un enfant à obéir si on ne peut pas lui expliquer pourquoi il obéit. Marie a obéi, Joseph a obéi sans comprendre ce qu'il faisait, je crois. Et ils ont emmené Jésus à l'obéissance. Et certainement, il y a eu des phases dans sa vie où il ne savait pas pourquoi il devait faire des choses, mais il s'est plié. Et il dit ceci, il dit, nous devons leur apprendre à accepter tout ce que nous exigeons d'eux pour leur bien. Il dit, j'ai entendu dire par quelques-uns que nous ne devrions rien exiger des enfants qu'ils ne puissent comprendre. Nous devons expliquer et justifier tout ce que nous désirons qu'ils fassent. Je vous mets solennellement en garde contre cette notion. Je vous dis clairement que je pense que c'est un principe malsain et non scripturaire. Sans doute, il est absurde de faire mystère de tout ce que nous faisons. Et il y a bien des choses qu'il est bon d'expliquer aux enfants, afin qu'ils voient qu'ils sont raisonnables et sages. Mais les élever avec l'idée qu'ils ne doivent rien, prendre sur la confiance qu'ils doivent avec leur compréhension faible et imparfaite, avoir le pourquoi et le pourquoi clair pour eux à chaque pas qu'ils font, c'est en effet une erreur effrayante et susceptible d'avoir le pire effet sur leur esprit. Montrez-leur l'exemple d'Isaac, le jour où Abraham le prit pour l'offrir sur le mont Morija. Il posa cette seule question à son père, « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Il n'obtint d'autre réponse que celle-ci. Le Seigneur se pourvoira d'un agneau. Comment, où, d'où, de quelle manière, par quel moyen, Isaac n'a pas été dit, mais la réponse était suffisante. Il croyait que ce serait bien parce que son père l'avait dit. Il était content. Et il dit ici, voilà, donc on n'est pas, ça nous encourage à faire des choses avec nos enfants, même s'ils ne comprennent pas toujours le pourquoi. Jésus va au temple avec ses parents l'emmènent au temple et ça a continué pendant des années. Et c'est vrai que des fois, on dit, je connaissais des gens qui disaient, bon, je vais pas, avec des adolescents, je ne vais pas les conduire au temple parce que, je veux qu'ils comprennent pourquoi ils y vont, pourquoi, etc. Et donc, je ne le force pas. Non, il y a un stade où on doit exiger l'obéissance, même si l'enfant ne comprend pas. Et même si on n'est pas, et même des cas où on n'est pas obligé de dire le pourquoi des choses. Et quand on obéit, on doit obéir toujours, même sans savoir forcément le pourquoi des choses. Il y a des âges où il faut expliquer, d'autres âges où on n'a pas besoin de donner des explications. Et en tant que parent, je crois qu'il faut prendre parfois bien cette responsabilité-là. On le voit avec Marie et Joseph ici, qui conduisent Jésus comme il doit être conduit. Et la Bible dit, quand on lit l'évangile de Luc, que Jésus était soumis à ses parents. Même à l'âge de 12 ans, quand ses parents viennent le chercher, la Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Ça montre une habitude de soumission qui a commencé dès le plus jeune âge. Que le Seigneur nous aide dans sa parole à considérer ces choses. L'importance d'être soumis à la loi, c'est ce qui a caractérisé Jésus dans toute sa vie. Il a été obéissant entièrement à la loi. Et nous qui vivons l'évangile de ce côté-ci de la croix, nous devons apprendre que l'évangile n'est pas incompatible avec la loi. Mais l'évangile, c'est l'application de la loi de Dieu. Et nous devons chercher constamment aussi à nous soumettre à la loi de Dieu. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Et nous te demandons qu'elle puisse nous guider chaque jour dans notre vie pour la gloire de ton nom. Amen.